Ville et patrimoine, le premier salon sur la réhabilitation du bâti existant, le 13 juin 2024 au Palais de la Bourse à Bordeaux, sur Radio Immo et Radio Patrimoine.
Il est 17h et on est toujours avec vous sur Radio Patrimoine et Radio Immo. Bien sûr, on est ravis d'être avec vous. 17h, c'est la clôture de cette édition 2024 ici au Palais de la Bourse à Bordeaux, salon Ville et Patrimoine. Et nous ne pouvons pas mieux finir avec le président de la compagnie des CGP que j'ai le plaisir de recevoir une seconde fois parce qu'il était venu nous voir aussi à Paris, c'est Philippe Feuille. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Sylvain, ça me fait plaisir également que l'on se revoie.
Oui, grand plaisir parce que vous êtes quelqu'un qui parle haut, qui parle fort, sans détour.
Je parle avec les tripes et le cœur.
Parce que vous avez une raison qui domine tout, c'est que vous êtes avant tout un entrepreneur et vous entraînez avec vous dans le courant et dans votre profession avec noblesse et engagement tous les entrepreneurs qui vous suivent. Alors, première question, plus sympathique. On vient de passer cette journée, c'est un salon qui vit sa troisième édition déjà. Qu'est-ce que vous ressentez là? Voilà, on est quasiment à la fin de cette journée. Ce soir, on sera ensemble pour la remise de prix du prix Viollet-le-Duc qui sera récompensé à l'espace Bernard Magret. Comment vous avez vécu cette journée?
Ben, écoutez Sylvain, c'est une journée d'abord que je défends depuis le départ puisque je pense que ce salon est un salon qui est à la fois atypique et qui sort de l'ordinaire. Pourquoi ? D'ailleurs, je le rapproche forcément de notre activité. Il a des valeurs humaines. Il a des valeurs qui sont des valeurs très fortes, notamment sur l'ancien bâti, c'est-à-dire ce qui est l'histoire de la France. On a un patrimoine immobilier qui est un beau patrimoine immobilier. Alors, je vais parler un petit peu de ma ville qui est Bordeaux. Toutes ces façades 18e qui sont magnifiques et qui ont été rénovées et qui ont bénéficié de tous les avantages, qu'ils soient fiscaux, patrimoniaux, etc. Donc là, vous prêchez un convaincu. Et je suis intimement convaincu que c'est un salon qui a une belle réussite. Plutôt que de faire, et excusez-moi, des merdes de construction, ouais, je sais, je suis toujours.
Non, mais non, continuez,
je suis toujours aussi direct, je ne changerai pas.
Non, continuez, ne changez pas, Philippe.
Mais je trouve dommageable, des fois, quand je vois un bel immeuble tout en pierre, qui a une histoire, qui a un passé, qui a un vécu, certes, qu'il faut adapter, parce que j'entends tout à fait plan environnemental, etc. Mais je me dis, quel dommage d'enlever cette belle façade. Donc voilà, c'est pour ça que je plébiscite ce salon, c'est pour ça que je le mets en avant. Et puis, il y a les valeurs humaines, j'en parlais, mais il y a les valeurs fondamentales. Et je pense que ce qui est le plus fort, ce sont nos racines. C'est-à-dire que nous sommes tous des chefs d'entreprise. Mais un chef d'entreprise, il a besoin de racines, il a besoin de repères, il a besoin effectivement de défendre des idées, de les faire partager. Or aujourd'hui, malheureusement, on ne sait plus communiquer. On ne sait plus parler, on oublie beaucoup de choses et je trouve ça dommage. Voilà pourquoi je défends ce salon à qui je souhaite effectivement pleine réussite.
On ne peut pas ne pas parler, bien sûr, cher Philippe, de la période actuelle qui est une période trouble, inédite dans la Ve République. Hein. C'est du rarement vu. On a rarement vu un président de la République congédier la totalité de la classe politique, du coup arrêter tous les projets en cours, législatifs et autres. En convoquant finalement, en dissolvant l'Assemblée nationale et en convoquant des élections avec à peine 3 semaines de campagne. C'est rare, on l'a jamais vu. C'est même pas un idéal que défend notre cher président, c'est plutôt une technique qui, à mon avis, lui sera fatale. Comment vous interprétez tout ce désordre, vous, qui êtes forcément dans nos métiers, impactés par ce désordre normatif? Pire, par cette inflation normative et une fiscalité, disons-le, confiscatoire sur certains sujets, notamment sur les actifs immobiliers, qui ont été ciblés d'ailleurs dès le début de la première année du mandat présidentiel d'Emmanuel Macron.
Sylvain, quand l'immobilier va, tout va.
Georges Pompidou.
Le problème, c'est que l'immobilier ne va pas très bien pour toutes les raisons économiques, les financements, les prêts, en fait, tout ce que l'on sait. Je ne vais pas parler parce que je ne vais pas rentrer dans des considérations politiques, mais
je comprends.
Mais ce que je trouve dommageable, si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Avant-hier, j'étais à Lyon, j'étais dans ma chambre d'hôtel, et il y a un journaliste qui était en train d'interviewer un malade, un sportif de haut niveau, qui était atteint de la maladie de Charcot. On sait que la maladie de Charcot, c'est entre 3 et 5 ans de vie. Et vous savez que dans une semaine, théoriquement, il devait y avoir un décret, une loi qui devait passer pour la fin de vie. C'est à ces gens-là que je pense. Et je me dis que beaucoup de ces gens-là souhaitent effectivement ne pas continuer à faire souffrir leur entourage et à souffrir eux-mêmes. Et je me dis, voilà un exemple qui est quand même, pour moi, humainement très fort. Ce sportif qui, intellectuellement, est en train de perdre physiquement, intellectuellement, à tous les niveaux. Et il y a des milliers de gens qui sont dans ce cas. Et pourquoi je prends cet exemple ? C'est un exemple qui est à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il est au niveau de la profession. Pour moi, la plus grosse entreprise de France, ce sont les TPE, les PME, les artisans, absolument, les commerçants, les agriculteurs, etc. Et aujourd'hui, de tous les côtés, nous sommes complètement étranglés, enfoncés, montrés du doigt, alors que nous sommes la richesse d'un pays. On ne voit que par des très gros, etc. Je trouve ça dommageable. Et donc, si malheureusement, aujourd'hui, nous arrivons effectivement à cette période, certes, qui est une période très difficile, c'est pour voir aussi tout ce qui se passe. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on voit au niveau rural ce qui s'est passé, parce qu'il y a une forme d'hypocrisie à tous les niveaux, il y a de quoi se poser des questions. Quelqu'un qui fait son travail honnêtement, ben aujourd'hui, on ne le voit pas. On va encourager des tas de gens qui font n'importe quoi. Par contre, celui qui fait son travail honnêtement, et je reprends le cas du rural, quand on voit toutes les applications réglementaires qu'ils sont obligés de respecter, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, est le cas dans notre profession, parce que trop de règlements tuent le règlement, c'est pas que je sois contre. Vous savez, moi, ça fait des années que je fais ce métier. Et ça fait des années que j'essaie d'être pédagogue au maximum auprès des clients. On sait très bien que nos concitoyens ont besoin d'une culture économique à différents niveaux, absolument, de comprendre le mécanisme et de comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas toute sa vie être assisté par un système, donc prendre ses responsabilités. Donc moi, je suis pour le partage des responsabilités. C'est-à-dire que si j'ai un client en face de moi, je lui explique les tenants et les aboutissants. Et ce n'est pas en attendant un système étatisé que les problèmes vont se résoudre, c'est de prendre les choses en main. Or, malheureusement, aujourd'hui, à tous les niveaux d'ailleurs, au niveau communication, au niveau des systèmes, des réseaux qui existent, etc., on est en train de tirer vers le bas nos concitoyens. Je trouve ça dommageable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moins vous pensez, moins vous dites, et mieux vous êtes. Eh oui. Eh bien, moi, je ne suis pas comme ça. Je vois les choses différemment. Et la richesse d'un pays, c'est par sa diversité et aussi par tout ce que ça peut générer.
Vous savez, ça m'interpelle ce que vous dites, parce que vous dites finalement, d'ailleurs, je vais même donner le chiffre, 62% environ de l'emploi national est dominé par les TPE, les artisans, les commerçants, qui sont les plus ébranlés dans le système. Et souvent, bien évidemment, on a des fiscalités, des avantages, des structures qui sont adaptées à certaines grandes entreprises qui ont moins de difficultés. Et d'ailleurs, certaines grandes entreprises, on ne les laissera pas plonger. Parce que les risques sociaux sont tels que l'État va intervenir, qu'on trouvera des partenaires financiers, mieux, on trouvera des banques qui vont les soutenir. Par contre, le garagiste du coin qui, lui, va couler parce que, justement, il est étranglé par trop de charges ou par une fiscalité qui lui a complètement bouffé sa marge, comme d'autres entrepreneurs, bah, lui, il n'y a pas de problème. Il sera liquidé très, très vite.
Bien sûr.
D'ailleurs, les statistiques ont démontré que, justement, ceux qui n'arriveraient pas, en 2024-2025, à financer le reste du PGE, par exemple, c'est 55 000 défaillances. Sur les agences immobilières, je regardais les statistiques, c'est 1200 agences immobilières en 6 mois qui ont déjà coulé. C'est un drame absolu. Bien évidemment, on ne va pas affubler le gouvernement de tous les maux, mais ils auraient pu ne pas accentuer le mal qui était en train d'arriver. C'est sûr que ce n'est pas Emmanuel Macron qui a provoqué la guerre en Ukraine. Loin de là, ce n'est pas ce que je dis. Mais il n'était pas obligé de mettre un terme au Pinel. Il n'était pas obligé de réduire les APL. Il n'était pas obligé de convoquer un IFI qui, finalement, a déporté une partie de l'impôt ailleurs. Est-ce qu'il était obligé de faire tout cela ? Est-ce qu'il était obligé de faire ce qu'on appelle la réduction de loyer de solidarité pour les bailleurs sociaux ? Non. Voilà. Est-ce qu'il était obligé de mépriser les élus locaux qui sont à la gorge aujourd'hui, qui n'ont plus de ressources, parce que les DMTO ont baissé les droits de mutation de façon drastique parce qu'il y a une chute des ventes, parce qu'on leur a pris la taxe d'habitation ? Vous voyez, la somme de tout cela fait qu'à un moment donné, le mal était peut-être déjà là. Il était inutile, en fait, finalement, de faire mourir le mort un peu plus.
Alors, j'irai même plus loin. Je pense qu'on paye 40 ans de laxisme politique,
De courage politique,
de manque de courage politique. Et c'est ça qui est dommageable. Aujourd'hui, la responsabilité, elle est à tous les niveaux, personnel, collectif, politique, etc. Et aujourd'hui, on en arrive à la situation qui est celle d'aujourd'hui. Je trouve ça dommageable, parce que si on pouvait donner un peu plus de confiance et arrêter de montrer du doigt et d'analyser, parce que ça, pour analyser, on analyse, hein. On passe du temps, hein. Il a dit ceci, il a dit cela, mais pourquoi il a dit et comment et de quelle manière. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'encourager ceux qui ont envie d'entreprendre, ceux qui ont envie d'entraîner avec eux du monde, ceux qui ont envie de réussir. C'est ça notre challenge. Or, aujourd'hui, c'est la politique du diviser pour mieux régner. Quel dommage. Au lieu d'aller en équipe et d'aller plus loin, on préfère chacun être de son côté. C'est quand même dommage.
C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau, Philippe. Une belle conclusion. Et j'ajouterais, pour citer quelqu'un que j'aime beaucoup, dont la lecture a toujours été un régal, c'est Maurice Druon, l'auteur des Rois maudits, vous savez, le neveu de Joseph Kessel, qui disait « Ce n'est pas grave tout cela, car la France s'en remettra ». Notre pays s'en remettra parce qu'il s'en est toujours remis. Et j'allais dire que cette pensée que j'ai, et je pense qu'on partage les mêmes idées, vous et moi, ne serait-ce que sur cette France des oubliés, qui a peut-être amené un pouvoir différent, mais en tout cas a eu le mérite d'une chose, c'est de provoquer un très large débat et de remettre en cause finalement ce que les gens croyaient inamovible. Vous savez, la démocratie, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien avec les gens, dans un esprit républicain, et c'est pas quelque chose qui se décrète à Paris, dans des salons dorés, bien évidemment, vous m'avez compris. Merci Philippe Heuil.
Merci Sylvain.
Voilà, président de la compagnie des CGP, qu'on renvoie avec toujours beaucoup de plaisir sur nos antennes, et il sera toujours le bienvenu. Voilà, c'est la fin de notre journée de cette troisième édition du Salon Ville et Patrimoine ici au Palais de la Bourse à Bordeaux. Très très belle édition. On va se retrouver ce soir un petit peu au confidentiel pour une soirée de remise de prix sur le bâtiment remarquable, notamment avec le prix Viollet-le-Duc. Les podcasts, comme d'habitude, sont réécoutés sur la plateforme de Radio Immo, mais pas que. Vous tapez simplement Radio Immo, Radio Patrimoine, et vous récupérez toutes les plateformes. Vous likez, vous commentez. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'aller voter.
Ville et Patrimoine, le premier salon sur la réhabilitation du bâti existant, le 13 juin 2024 au Palais de la Bourse à Bordeaux, sur Radio Immo et Radio Patrimoine.